Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés dans le jury pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro.
Bonjour,
bonjour Guillaume. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour. Bonjour Christophe. En fin de première partie, Richard Ferrand dans notre rubrique La Question en plus, c'est Jean-Christophe Picard, le président de l'association Anticorruption Anticor qui vous interpellera. Et puis, nous retrouverons en fin d'émission, comme d'habitude, comme chaque dimanche, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL pour questions nettes, vos commentaires, vos questions au président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez toujours réagir en direct sur RTL.fr, sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Alors Richard Ferrand, les Français ne font plus confiance à leurs députés. Ils sont 77% aujourd'hui à ne plus accorder de crédit à ceux qu'ils ont eux-mêmes envoyés au Parlement. Et cette défiance s'accélère depuis un an. La crise des Gilets jaunes est justement la traduction la plus récente de cette défiance. Et certains de ces Gilets jaunes vont même jusqu'à demander la convocation d'une assemblée exceptionnelle, une constituante, pour remettre à plat les institutions et redonner, disent-ils, véritablement le pouvoir au peuple. Alors évidemment, la responsabilité de cette crise politique ne vous incombe pas à vous tout seul, puisque vous êtes à la tête de l'Assemblée nationale depuis quelques mois à peine, mais vous êtes néanmoins désormais en première ligne pour proposer et apporter une réponse à cette crise de régime. Le défi qui est le vôtre est celui d'Emmanuel Macron, dont vous êtes un très proche. Ce défi est immense. Il s'agit de parvenir à renouer ce lien brisé entre les Français et leurs représentants. Comment ? En limitant le nombre de députés, par exemple, en délocalisant le Parlement en région ou encore en lançant un Parlement 2.0 où le débat pourrait se faire à distance entre les élus. Ces deux dernières propositions, Richard Ferrand, ne viennent pas de nulle part. Non, c'est Adrien Taquet qui les avait promues l'an dernier. Adrien Taquet, député La République En Marche, qui est, hasard de l'histoire et du calendrier, désormais au gouvernement, secrétaire d'État. Proposition farfelue ou remède suffisant pour faire enfin de l'Assemblée nationale une maison de la démocratie, vous nous le direz. Mais, on espère en tout cas, mais on commence, Richard Ferrand, une fois n'est pas coutume, non pas sur la manifestation d'hier, mais sur celle à venir, dès cet après-midi, et c'est Guillaume Roquette qui vous pose la première question.
Oui, une marche républicaine de défense des institutions, cet après-midi à Paris, est-ce que vous y participerez ?
Je vais répondre à votre question, Monsieur Roquette, mais je voudrais saisir la circonstance qui me fait être devant vous pour que nous nous souvenions de quelque chose. C'est qu'un 27 janvier, voici 74 ans, en 1945, le monde entier découvrait, au moment de la libération des camps d'Auschwitz, l'horreur de l'extermination industrialisée d'une partie de l'humanité. Et il me semble que par-delà l'actualité, il est des dates de l'histoire qu'il faut savoir garder à l'esprit et faire mémoire.
Parce que vous entendez des choses dans les cortèges qui vous choquent, Richard Ferrand ?
Je ne veux pas mélanger l'histoire et l'actualité. Évidemment qu'il y a des relents d'antisémitisme ici ou là, mais je ne voulais pas lier les deux. Je voulais juste, parce que nous sommes le 27 janvier, faire mémoire avec vous et avec vos auditeurs de ce qui, voici 74 ans, a été découvert par le monde entier. Sur l'actualité, donc, la marche.
Et cette marche.
Cette marche et cette démarche ont toute ma sympathie. Toute ma sympathie, mais pour autant, je n'y participerai pas. Pourquoi ? Parce que, je l'ai entendu ce matin, au journal de RTL, un peu avant 9h, il y avait une invitée qui expliquait le sens de sa démarche et de sa marche. Et au fond, ce sont des compatriotes qui disent « on en a un peu marre ». On en a un peu marre de cette pétaudière hebdomadaire du samedi où on assiste à un certain nombre de violences, où même parfois en semaine on ne peut plus librement circuler, on est sommé d'arborer le gilet jaune pour en quelque sorte monter patte blanche et pouvoir travailler normalement, etc. Par conséquent, cette majorité silencieuse, à l'initiative de quelques-uns, a pris la décision de donner un signal. Alors pourquoi je n'y participerai pas ? Parce qu'évidemment, On dirait
tout
de suite.
C'est une manifestation de soutien. Alors
on dirait tout de suite. On dirait tout de suite. Voilà, c'est une récupération. Ceci, cela. D'ailleurs, à juste raison, votre consoeur ou confrère ce matin a posé la question à cette consoeur, personne de savoir si elle était engagée ici ou là, et elle a clairement répondu que non. Donc je n'ai pas envie qu'ensuite on puisse trahir le sens de l'engagement.
Cette marche, elle a été prévue au départ comme une marche de soutien au président de la République. Il n'y aura pas un seul ministre. Mm-hmm. Comme si c'était difficile de soutenir Emmanuel Macron.
Richard Ferrand.
Moi, très honnêtement, ça ne m'est nullement difficile. Je vous rassure immédiatement. Mm-hmm. Ça ne pose aucune difficulté. Simplement, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'il y aurait une partie de la France qui s'opposerait à une autre partie de la France. Nous sommes là pour agir et pour rassembler, pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent à notre pays. Mais qu'à côté de cela, il y ait des compatriotes qui aient envie de dire « Nous avons, nous, une autre vision des choses. Nous voulons soutenir nos institutions. » Parce que vous savez, je ne partage absolument pas, monsieur Sportouche, ni votre diagnostic, et encore moins votre ordonnance. Donc il y a un certain nombre de Français qui, eux, ont eu envie de sortir pour dire « La France qui s'exprime n'est pas que la France » qui, tous les jours, invente la réforme de la Constitution, la réforme de ceci ou la réforme de cela, au gré des porte-paroles qui s'expriment et sont surabondamment repris ici ou là.
Vous pensez qu'il y aura du monde à cette manifestation ?
Je ne suis pas pronostiqueur.
Mais est-ce que vous encouragez les marcheurs, ceux, donc les partisans de La République En Marche, à s'y rendre ?
Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il est important de montrer qu'il y a des Français qui ont envie de faire passer un autre message que celui qu'on nous inocule à longueur de samedi depuis début novembre.
Alors Emmanuel Macron remonte dans les sondages, certains se demandent si le gros de la crise est derrière vous, et pourtant les manifestations se poursuivent, et parfois de manière violente, Christophe Jacubizine.
On l'a vu hier, encore une fois, avec des manifestations qui parfois dégénèrent, avec notamment l'un des leaders des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, qui a été touché par ces fameuses balles lancé par des pistolets des policiers.
Vous en êtes sûr de tout ça ?
Ce que dit son avocat.
Vous en êtes sûr ?
Non, c'est ce que dit son avocat.
Ah, c'est ça.
Ce que dit l'avocat. La police dit que ce sont des grenades désencerclement.
Vous n'en êtes pas sûr ? Vous avez un doute ?
Moi, je ne suis sûr de rien. Il y a précisément des investigations qui vont être menées. Donc, attendons de savoir avant de dire.
Donc, vous dites aujourd'hui, on n'est pas sûr que ce soit une balle en provenance de la police.
Balle de défense.
Écoutez, moi, personnellement, je ne suis sûr de rien. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a une responsabilité politique, quand même, en l'occurrence, s'il y a eu une grenade de désencerclement qui a touché ce leader des Gilets jaunes, ou si c'est un lanceur de balles de défense ? Est-ce qu'il y a une responsabilité ? Vous dites, Christophe Castaner s'est manifesté très rapidement hier sur les réseaux sociaux, et la police des polices a été très rapidement saisie,
oui, Richard Ferrand. Parce que précisément, figurez-vous que c'est ça l'avantage de la République sur l'anarchie. C'est qu'il y a d'un côté... Il ne faut pas confondre l'usage légitime de la force et la violence. Ce n'est pas pareil. Les forces de l'ordre agissent dans le respect de la loi et dans les limites que pose la loi. Si d'aventure il y a un doute sur l'usage ou le mésusage qui a pu être fait par telle ou telle arme de défense, à ce moment-là, une enquête est diligentée pour vérifier que les choses sont faites dans les règles. Mais s'il vous plaît, ne retournons pas la crêpe, si je puis dire. Parce que ce ne sont quand même pas des policiers qui jettent des boules de pétanque. Ce ne sont pas des policiers qui, comme hier à Quimper, dans mon département du Finistère, ont fait qu'il y a 4 CRS qui ont été blessés parce qu'on a jeté sur eux de l'acide. Alors, d'un côté, ayant de la rigueur, évidemment, sur le bon usage de la force légitime exercée par les policiers au nom des lois de la République, et soyons extrêmement vigilants et actifs aussi pour réprimer ceux qui veulent tout de même, avec de l'acide ou des boules de pétanque ou autres instruments, porter atteinte à la vie des femmes et des hommes qui maintiennent l'ordre.
Mais vous voyez tout de même sur les réseaux sociaux beaucoup d'images sur des blessés, parfois sévèrement.
Les réseaux sociaux, c'est pas la France. Les réseaux sociaux, ce sont des gazouillis. Les tweets, c'est ça leur définition.
Mais vous
française.
Ne croyez pas à ces
ce que je veux vous dire, c'est que c'est assez simple.
Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il faut changer les armes ? Est-ce qu'il faut supprimer les balles ?
C'est assez simple à comprendre. Il y a d'un côté les forces de l'ordre qui protègent d'abord les manifestants, je vous le signale tout de même, qui protègent les manifestants, qui ensuite maintiennent l'ordre et protègent pour éviter les saccages et les violences. Ensuite, il y a des violences qui sont des actes de détermination à blesser, voire à tuer. Mais la République et le ministre de l'Intérieur l'a fait savoir, vous avez raison de le rappeler, si d'aventure une arme serait mal utilisé. Alors il y a enquête pour savoir ce qu'il en est et éventuellement
sans. Mais il y a une volonté de tuer de la part de certains manifestants pour vous, de faire de blesser ou de tuer les forces de l'ordre?
Monsieur Sportouche, si je vous jetais au visage une bouteille d'acide et si je vous visais avec une boule de pétanque, je pense que vous n'imagineriez pas que c'est pour vous faire du bien.
On entend votre discours très ferme et en même temps, on voit que l'Assemblée nationale qui s'est saisie d'une loi anti-casseurs qui avait été proposée par l'opposition est en train de la vider de sa substance. Par exemple, il y avait un fichier de gens interdits de manifestation qui était prévu et on apprend que la majorité En Marche finalement renonce à ce fichier.
Richard Ferrand.
C'est inexact. Il faudrait qu'on se revoie quand l'examen de ce texte aura été finalisé.
Vous espérez les faire changer d'avis ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est quoi l'objet de cette loi ? Sur quoi il n'y a pas débat ? C'est d'abord pouvoir interdire à des personnes qui se sont déjà illustrées par des violences de revenir manifester. Ça me paraît juste la moindre des choses. C'est dire que celles et ceux qui viennent, le visage masqué, on se demande pourquoi. Moi, j'en ai fait des manifs. Je suis toujours allé à visage découvert. J'ai jamais eu pris soin de me planquer. Donc, qu'il soit considéré comme un délit, le fait de vouloir masquer son visage. Bon, ensuite, il va falloir que l'on puisse regarder dans les sacs ce que transportent les uns ou les autres, je faisais allusion à ces armes par destination, afin qu'ils puissent aller manifester paisiblement.
C'est déjà le cas, pas, on contrôle les sacs pas, après des périmètres.
Précisément, mais tout cela doit être codifié, renforcé, pour faire en sorte que les manifestations dans notre pays puissent toujours avoir lieu, car c'est un droit constitutionnel fondamental, mais qu'on ne le confonde pas manifestation pour porter une idée, une revendication, à une proposition et la volonté
mais
de créer des ordres.
Vous voulez, Richard Ferrand, redurcir ce texte qui a été fortement amendé et adouci, dit la droite, par vos députés.
Non, mais attendez. Prenez le texte comme il est entré en commission, reprenez-le comme il en est sorti, et vous constaterez que les dispositions que je viens de citer devant vous, sont toujours comprises
dans ce texte. Vous n'avez
pas parlé du fichier.
Bien
sûr, je peux compléter. Sera constitué un fichier des personnes qui se sont illustrées par des attitudes violentes dans des manifestations.
Pour les interdire de manifestation ?
L'idée serait en effet de leur interdire de manifester s'ils se sont illustrés de manière violente et s'ils donnent des signes de récidive.
Est-ce que l'Assemblée nationale pourrait, est-ce que vous êtes favorable à une commission d'enquête parlementaire sur ces violences ? Peut-être justement pour faire toute la transparence, pour qu'il n'y ait pas de suspicion de la part des manifestants. Est-ce que vous êtes favorable à une commission d'enquête parlementaire ?
Sur la violence des manifestants ?
Sur la violence dite policière, Richard Ferrand.
Écoutez, on commencera par la violence des manifestants et on pourra ensuite regarder si les réponses qui ont été apportées étaient adaptées. Mais aujourd'hui, tout est, j'ai envie de dire, assez transparent. Tout le monde voit clair sur ce qui se passe. Ensuite, lorsqu'il y a un doute sur tel ou tel agissement
policier... On
n'y
voit pas si clair que ça sur les blessures.
Attendez, l'IGPN est saisi. Je n'ai pas l'impression que ce soit des gens particulièrement laxistes quand ils mènent une enquête sur le comportement de tel ou tel policier. Donc, tous les éléments seront mis sur la table. Si un groupe... Parce que ça marche comme ça, l'Assemblée nationale.
Oui, si un groupe demande une commission d'enquête...
Vous savez, chaque groupe, M. Sportouche, est libre, dispose de ce qu'on appelle un droit de tirage pour proposer une commission d'enquête sur ceci ou sur cela. Et personne, naturellement, n'a le pouvoir de s'y opposer. Donc si un groupe le demande, il le fera.
Richard Ferrand,
Christophe Jacubizi.
Quelle est votre analyse sur la répétition de ces mouvements du samedi ? Est-ce que pour vous, ça s'effrite ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un risque de rassemblement des luttes ? Par exemple, on sait que le 5 février, il y a un appel à une grève générale, en tout cas une manif de la part de plusieurs leaders des Gilets jaunes, soutenus par la CGT et le nouveau parti anticapitaliste. Jean-Luc Mélenchon regarde, je cite, favorablement, attentivement et de manière intéressée ce qui se passe et donnera son avis mardi, je crois, une décision de la France Insoumise sur le fait de participer à cette manif du 5 février.
Cette grève illimitée dès le 5 février, cher Ferrand.
Oui, on est sauvé si M. Mélenchon prend le temps de réfléchir. Bien, plus exactement. Il y a un mouvement qui est lancé, mais je vous rappelle qu'il y a aussi des appels au soulèvement général.
Éric Rouet.
Voilà.
Autre figure des Gilets jaunes.
Il y a toute une série d'appels dans tous les sens. Je crois qu'il ne faut pas... Il faut faire une grande distinction entre une démarche revendicative qui peut être celle de la CGT, dont on connaît les engagements, les souhaits, les appels, etc., et dont on connaît aussi la capacité à avoir un service d'ordre pour faire que l'expression des revendications de ce grand syndicat se fasse dans le respect des règles républicaines. Donc, J'ai envie de dire, il ne faut pas mettre tout ensemble de manière non dissociée. Hein. Donc, d'un côté, il y a un mouvement social emmené par un syndicat, d'autres forces qui veulent s'agréger, ben écoutez, nous verrons bien ce que cela produit. Moi, je n'ai pas de prédiction particulière à faire.
Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est dans son rôle hein, de député, de président du groupe de la France Insoumise, dans une démarche, disent certains, antidémocratique, antirépublicaine? Xavier Bertrand dit que c'est un parti extrémiste aujourd'hui.
Non, mais attendez. Jean-Luc Mélenchon, comme les 576 autres députés, a été légitimement élu. Mm-hmm. Par conséquent, il a toute liberté pour porter ses thèses, pour les défendre et pour dire comment il envisage les choses. Tout à l'heure, vous me parlez d'une constituante, mais je vous rappelle que c'est précisément le programme de M. Mélenchon. Mm-hmm. Il était dans son programme présidentiel.
Donc il est un relais naturel des Gilets jaunes.
Auquel les Français ont dit non. Je vous le rappelle quand même. Ils n'ont pas voulu que M. Mélenchon et son programme prospèrent. Alors que lui essaye de faire ressusciter son projet présidentiel à travers ce mouvement, c'est possible, mais je ne suis pas certain que la réciproque soit vraie.
C'est-à-dire que vous ne pensez pas que les Gilets jaunes peuvent lui faire confiance pour...
Je n'ai pas dit ça, j'ai dit je ne suis pas certain que les Gilets jaunes se reconnaissent tous dans le programme de M. Mélenchon.
Lui dit le contraire, il dit qu'il est un porte-voix de leurs revendications.
Eh bien, il a raison de dire ça, je me mets à sa place, mais moi je ne suis pas sûr.
Qui est le porte-voix des revendications des Gilets jaunes aujourd'hui? Est-ce que Marine Le Pen elle le dit, elle le proclame, elle a beaucoup aussi de ses sympathisants qui font partie des manifestations. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est elle qui peut porter ce mouvement?
Écoutez, moi vous savez, dès le début, j'ai eu l'occasion de dire devant certains de vos confrères, et je crois que j'ai été le premier. Ce mouvement porte des propositions, qu'il s'organise. Mmh. Il s'organise. Ensuite, qu'il se présente aux élections.
Parce que tout de même, la liste des Gilets jaunes.
En démocratie, il y a quand même juste une règle qui s'applique, et jusqu'à preuve du contraire, c'est la moins mauvaise, c'est l'expression du suffrage universel. Donc, lorsqu'on a des propositions à porter, lorsqu'on a une certaine vision du monde à défendre, des réformes à proposer, eh bien, on crée une plateforme d'idées, on s'organise et on se présente à ses compatriotes. C'est juste ça, la démocratie.
Vous êtes content de l'annonce de la constitution d'une liste Gilets jaunes la semaine dernière, avec Ingrid Levavasseur à sa tête?
En tout cas, je trouve ça courageux, parce que si j'en juge, d'après ce que j'entends hein, sur vos propres ondes, par les menaces dont ces personnes sont victimes, des menaces, on leur suggère de renoncer à leur projet, etc., etc., il faut un certain courage. Donc après tout, s'ils estiment qu'ils peuvent représenter un mouvement ou une pensée cohérente pour la proposer au suffrage universel, ils ont raison de le faire.
Vous arrange pas un peu?
Sinon, ça ne sert à rien.
Est-ce que ça vous arrange pas un peu? Parce qu'on voit que dans les sondages, ça fait baisser le Rassemblement national et que ça fait de vous, de La République En Marche, avec une liste Gilets jaunes, le probable, peut-être, premier parti aux européennes.
Au rythme où vous allez m'expliquer que nous avons même, nous, eu l'idée des Gilets jaunes.
Il ne faut pas charrier.
On ne va pas faire des comptes d'apothicaire. Ce que moi je dis, c'est que lorsque des gens se retrouvent dans un certain nombre de propositions, eh bien qu'ils les construisent, qu'ils les formulent et qu'ils les défendent. Après, ils font une liste, ils ne font pas une liste. En tout cas, ce que je note, c'est que ceux qui le font, manifestement, trouvent que mon propos est cohérent, essayent de le porter. Je rajoute, ils le font courageusement, puisqu'on voit bien que, d'après ce que j'entends et je lis, ils sont menacés par certains qui veulent en vérité seulement du désordre et pas de l'enrichissement de notre vie démocratique.
À l'instant, Jean-Luc Mélenchon, sur nos confrères de France 3, réclame une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est pour lui la seule issue, dit-il, à cette crise politique, de retourner devant les urnes, peut-être notamment avec une liste de Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous lui répondez, Richard Ferrand?
Que ce serait bien qu'il dise cela pour le Venezuela. Hein, puisque précisément, il y a un président au Venezuela dont la légitimité est contestée depuis l'origine de son élection, et il y a un autre président autoproclamé. Moyennant quoi, si on veut éviter que le sang soit versé dans ce pays cher au cœur de M. Mélenchon, eh bien, mieux vaudrait en effet retourner vers les urnes pour que les choses soient clarifiées. Faute de quoi, je crains le pire.
Bon. Et en France ?
Pour ceux qui nous concernent, c'est là que je disais formellement ne pas partager votre diagnostic, il n'y a pas en France de crise de régime. Le gouvernement gouverne, le président préside, et l'Assemblée nationale et le Sénat légifèrent. Tout ceci démocratiquement, et les choses avancent, quoi qu'on en dise, même si soudainement, on ne parle plus que de cela. Vous savez, on parle du nombre de manifestants aux Gilets jaunes, encore hier. Alors je
crois 69 000 selon le ministère de l'Intérieur.
Très bien, 69 000. Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler du fait qu'en 2018, il y a 50 000 compatriotes qui ont retrouvé du travail et que le chômage en France a baissé.
Nous allons en parler.
Et que progressivement, on voit bien que les recherches d'emploi, les offres d'emploi augmentent, que le nombre de contrats signés à durée indéterminée n'a jamais aussi cru depuis des années. Donc si vous voulez, moi ça m'intéresse au moins autant, voire plus, parce que moi, mon combat, c'est l'emploi. C'est faire en sorte qu'on retrouve en France une capacité à construire son propre destin. La lutte contre les inégalités, c'est ce que fait Jean-Michel Blanquer dans les écoles. C'est redonner à chaque Français les moyens de construire sa vie. Moi, voilà les chiffres qui m'intéressent.
Et qui doivent intéresser vos auditeurs. Vous dites qu'il n'y a pas de crise de régime, mais il y a tout de même une défiance très forte.
Revenons quand même quelques instants à votre démonstration. Vous disiez, si les Gilets jaunes ont des propositions, ben, ils se présentent aux élections. C'est le fonctionnement normal des institutions. Sauf que dans le fonctionnement normal des institutions, il n'y a pas de grand débat national lancé par le président de la République qui dit, on ne peut plus continuer comme ça. Donc, on voit bien que ça ne suffit pas, cette réponse institutionnelle classique. Vous n'avez qu'à vous présenter.
Non, mais enfin, précisément, la démarche du grand débat, c'est quoi? On a aujourd'hui plus de 2000 débats qui sont annoncés un peu partout en France. Et chaque jour, le nombre de ces débats augmente. Ça signifie quoi? Ça signifie que beaucoup de nos compatriotes, et d'ailleurs pas forcément ceux qui ont manifesté, ont envie de venir apporter leur contribution. Sur le site en ligne, c'est plusieurs centaines de milliers de contributions qui sont apportées, qui sont via les députés aussi. On reçoit des... Moi, j'ai des collègues parlementaires qui viennent me montrer ce que, ici ou là, il y a comme contribution. Donc, moi, il en quoi que on rouvre les portes et les fenêtres pour qu'il y ait une expression qui se fasse. Et on constatera, d'ailleurs, que l'expression qui émerge ici ou là ne consiste pas simplement que dans l'antiparlementarisme primaire. Oui, mais ça consiste aussi en un certain nombre de propositions qui seraient utiles.
Sauf qu'il réclame, Guillaume Roquette.
Oui, on débat dans les mairies, peut-être parce qu'on ne débat plus assez à l'Assemblée nationale.
Ou peut-être parce qu'on ne débat plus assez dans d'autres lieux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'organisation même de nos vies, il n'y a pas si longtemps, des lieux ou des manières de discuter des choses. Et je crois que cette redécouverte de la démocratie, la prise en compte de ce que l'on veut, ça peut être dans la vie associative, dans les commissions extra-municipales que peuvent créer des communes, que peuvent créer des conseils départementaux. Ça peut être aussi parce qu'il faut renforcer les moyens de la syndicalisation en France.
Mais l'Assemblée doit faire en sorte... L'Assemblée doit faire en sorte cause quand même.
Je vais y venir. Pour faire en sorte que, là aussi, dans l'entreprise, on puisse discuter, on puisse faire en sorte que tout le monde soit plus concerné par le devenir collectif.
C'est-à-dire que vous êtes évidemment une syndicalisation obligatoire, par exemple?
Obligatoire, non, mais que le chèque qui aide à la syndicalisation soit généralisé pour permettre une syndicalisation plus importante, ce serait sans doute
vous
une
en
bonne
avez parlé, Emmanuel Macron, ça ne s'expliquerait pas dans son programme, ce chèque syndical.
Non, mais il m'arrive de penser sans demander à
mais
Emmanuel Macron.
Mais peut-être en parlez-vous
si
au président,
penser,
que vous
si
connaissez
vous
bien.
Donc, je prends une entreprise comme AXA, par exemple, où le chèque de syndicalisation est largement diffusé. Ça a deux vertus. D'abord, ça évite de... Ça dédiabolise un peu, si je peux dire, les syndicats. Ça incite à participer à la vie de l'entreprise. Et moi, personnellement, j'ai la conviction qu'un bon dialogue social, de toute façon, est profitable pour les salariés et pour l'entreprise dans sa globalité.
Et la participation des citoyens doit-elle passer par un vote obligatoire?
Le vote obligatoire... regardez, en Belgique, ça existe. D'abord, en France, on a remarqué qu'on était un peu rétif à ce qui était obligatoire. Mais de surcroît, ensuite, quand vous créez une obligation absolue, encore faut-il vous donner les moyens de la faire appliquer. Et en Belgique, le vote est obligatoire, mais l'obligation n'est guère respectée. Donc, je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode. Je crois que c'est aux hommes et aux femmes politiques, je vais vous faire plaisir, de se remettre en cause pour précisément créer le désir d'aller voter.
Et d'ailleurs,
si dans les manifestations on entend parler de référendum d'initiative citoyenne, si au gouvernement on nous dit que peut-être qu'un référendum à la fin de ce processus ou plusieurs référendums serait la bonne idée, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a un problème de représentation par les élus?
On peut toujours... Vous savez, lorsqu'il y a des convulsions sociales, c'est d'abord, essentiellement, la faute aux élus. On est au courant, il y a une résurgence d'antiparlementarisme chaque fois qu'il y a des chocs, des heurts difficile dans une société.
Parce que vous ne jouez pas tout à fait le rôle que les Français attendent de vous, peut-être.
Oui, si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, on sait que c'est un phénomène résurgent. Depuis toujours. D'ailleurs, je vous fais observer que depuis de date récente, vous, journalistes, qui êtes censés créer la médiation, au fond, entre l'information et ce que les uns et les autres peuvent se forger comme point de vue, vous êtes mis dans le même sac.
Un partout, la balle au centre.
Voilà, non, non, mais c'est la même barre, si vous voulez.
Mais, vous
savez, il y a quelque chose de très important.
Ça ne vous discute pas de répondre à la question.
Non, mais je veux pousser mon raisonnement plus loin.
Cette revendication de démocratie directe, Richard Ferrand.
Je vais vous répondre. Il faut se souvenir que Victor Hugo lui-même, le grand Victor Hugo, lors de la constituante de 1848, n'hésitait pas à rappeler que le suffrage universel et la liberté de la presse étaient les deux faces d'une même médaille, et que s'attaquer à l'un, c'est s'attaquer à l'autre. Alors ensuite, vous me dites, il faut que les parlementaires soient reconquièrent la confiance. Mm-hmm. Ce que je remarque, c'est que les députés, quand on parle des députés, on dit ils sont pas bien, mais beaucoup de gens trouvent leurs députés pas si mal que ça. Vous savez, nous avons, dans le programme présidentiel, nous avons prévu de réduire de 30% le nombre de parlementaires.
Oui, et vous y êtes favorable.
Bah, naturellement, parce que nous allons le faire. Ouais. Donc, nous allons conduire cela. Avec des discussions nécessaires avec le Sénat.
Et la proportionnelle aussi
Non, mais je vous rappelle, j'étais rapporteur du projet de loi qui disait, on diminue de 30% les parlementaires et on instille 15% de proportionnelle. Donc, tout cela était prévu. Mais ensuite, quand on commence à se rendre compte, par exemple, chez moi, dans le Finistère, on me dit, mais tu es bien gentil avec ta réforme, ça veut dire qu'au lieu de 8 députés, dans le Finistère, il n'y en aura plus que 4. Je dis, bah oui. Et ce à quoi on me répond, donc on ne vous verra jamais, on ne vous verra plus, et comment est-ce qu'on va faire, et ceci et cela. Donc, vous voyez, ce que je trouve intéressant dans le grand débat, c'est le partage des complexités. C'est de dire que ce n'est pas ni un député, ni un citoyen qui doit simplement, tel au café du commerce, balancer une idée qui paraît simple. Tout est extrêmement complexe. C'est pourquoi il faut s'adresser à l'intelligence collective pour partager les complexités et trouver ensemble les bonnes réponses. Et vous savez, les parlementaires, on voudrait les voir plus sur le terrain pour être à l'écoute des citoyens. Quand on voit à la télé l'hémicycle vide, on dit « vous ne foutez rien ». Alors, voyez, nous n'avons pas le don d'ubiquité. Et croyez-moi, les députés, qu'ils soient de la France insoumise jusqu'à l'autre côté, chez les Républicains, je peux vous dire, moi, qu'ils travaillent tous. Et ils travaillent avec passion, avec sérieux et avec assiduité.
C'est l'heure de la question en plus, Richard Ferrand.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur Ferrand, bonjour. Jean-Christophe Picard, président d'Anticor. Alors, vous avez été contraint de démissionner du gouvernement suite à l'affaire des mutuelles de Bretagne, où on a appris que votre compagne s'était enrichie d'un demi-million sans trop faire d'efforts. Ma question est, lorsqu'on n'est pas assez bien pour être membre du gouvernement, peut-on exercer avec dignité les fonctions de président de l'Assemblée nationale ?
Richard Ferrand.
Monsieur Picard, donc.
Oui.
Lorsque l'on ment, je me demande si l'on est digne d'occuper la fonction qui est la vôtre au président d'une association de justiciers. Je ne le crois pas. Et lorsque, par ailleurs, on se fait représenter devant le tribunal de grande instance de Paris pour déposer plainte contre un parlementaire par un vice-président qui est lui-même premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris, on devrait avoir un peu plus de modestie sur la notion de conflit d'intérêts. Et par ailleurs, l'enrichissement que vous évoquez est pur mensonge. Au point, d'ailleurs, je le précise, que sur la base de cette tentative très douteuse tout de même, d'utiliser la posture d'un propre vice-président d'association alors qu'il est premier vice-président du TGI de Paris, a valu une décision de la Cour de cassation qui fait que cette tentative de procès a été déroutée vers Lille en précisant que plusieurs décisions de justice m'ont parfaitement lavé de tout soupçon.
C'était la réponse de Richard Ferrand, Anticor. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury. A tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
À mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Richard Ferrand, vous défendiez votre Assemblée. On entend beaucoup aussi dans les cortèges des gilets jaunes, des Français protester contre les avantages présumés, selon eux, trop importants des députés. Et certains, à l'Assemblée nationale, le relais, Mathieu Orphelin, qui est l'un des députés de La République En Marche, se dit prêt à diminuer son salaire de 500 euros. Est-ce que vous dites c'est de la démagogie où on peut y réfléchir.
D'abord, lorsqu'on parle de privilèges, je voudrais que l'on dise avec rigueur lesquels. Moi, je n'en connais pas.
Alors, on va y venir, parce qu'il y a des frais.
Alors, allons-y.
Alors, sur le salaire, est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition concrète de Mathieu Orphelin ? Un geste, un signe ?
Non, c'est une pensée orpheline, si je puis dire, c'est-à-dire une pensée rare. J'entends par là, si vous voulez, qu'il n'appartient pas aux députés de décider librement comment leur salaire est fixé, ni à la hausse, ni à la baisse. On ne va pas, là aussi, dire, bah, tiens, là, on va s'augmenter.
Et qui fixe le salaire des députés ?
Eh bien, c'est une règle. C'est par rapport à telle et telle référence de fonctionnaires que le salaire des députés, comme des sénateurs, est d'ailleurs fixé. Premier point. Deuxième point. Chacun est libre, sur son traitement, de faire des dons, s'il l'entend. Et si tel ou tel collègue souhaite... Et moi, je connais des députés qui font des dons à tel... association en faveur de l'enseignement, à telle association de solidarité.
Aux Gilets jaunes s'ils le souhaitent,
par exemple. Aux Gilets jaunes s'ils le souhaitent, ils peuvent le faire. Mais qu'on n'aille pas sur ce versant-là qui, en quelque sorte, voudrait mettre en scène, parce que je la connais, la chanson. Paresseux, pourri, trop payé, enfin, on veut quoi ? Vous savez ce que coûte l'Assemblée nationale par foyer fiscal en France ? Par mois, 1,25€. C'est ce dont on parle, c'est le coût. Vous savez, quand on parle du coût de la République, il faut parler des choses. 1,25€ par foyer fiscal et par mois. On aime bien parler du coût de l'Élysée. 110 millions d'euros par an. On dit, mais enfin, vous savez ce que c'est 110 millions ? C'est le coût de la dette nationale chaque jour. Chaque jour.
Mais Richard
ce qui
Ferrand
fait que le sujet sérieux, c'est la réduction de notre dette, c'est le combat contre les déficits, et ce n'est pas d'aller chercher des privilèges imaginaires, parce que soudain on a besoin de faire incarner la haine que l'on peut avoir de sa propre existence.
D'où vient cette défiance ? D'où vient ce mouvement contre les institutions d'anti-parlementarisme, voire même d'anti-présidentialisation, je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, l'opposition au président de la République, voire la défiance.
Oui, sur lequel je crois que j'ai un tout petit peu répondu tout à l'heure. C'est que beaucoup de nos compatriotes aiment bien leurs élus lorsqu'ils les connaissent, parce qu'ils savent qu'ils font leur boulot. Mais lorsqu'il y a un regard sur le système politique qui coïncide avec des convulsions sociales, c'est vrai depuis j'ai envie de dire, des siècles, enfin au moins deux siècles. Ça a été vrai particulièrement pendant la République de Weimar, pendant d'autres époques qui sont plus proches dans notre histoire de France depuis 1945. C'est la faute aux politiques, etc. Bon, on sait très bien que c'est aussi un exutoire. Alors pour autant, croyez bien que nous allons être extrêmement attentifs à ce qui sera dit dans les différentes réunions liées au grand débat. Que s'il y a des enseignements précis... S'il y a des enseignements précis à tirer, nous les tirerons. Donc, nous travaillons déjà sur notre réforme du règlement intérieur pour rendre les choses plus rapides dans l'exécution. Bref, nous sommes conscients qu'il faut se remettre en cause.
Voilà.
Il faut tenir compte de ce qui se dit et voir quelle réponse réel, on peut apporter, et pas des réponses simplistes et démagogues.
Alors justement, Richard Ferrand, je vais encore vous agacer parce que c'est sans doute anecdotique, mais c'est important.
Mais vous ne m'agacez pas.
Bon, tant mieux.
Alors, tant mieux.
Parce que j'ai de la ferveur dans ce que je dis.
C'est bien.
De l'agacement.
Vous avez raison, mais un exemple concret, par exemple, cette fameuse indemnité pour frais professionnels, vous avez fait un contrôle dessus. Il y a une déontologue maintenant qui surveille les frais des députés, et c'est bien, mais il reste, et ça remonte beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, une enveloppe de 600 euros que vous n'avez pas justifié. Non. Pourquoi un député ne justifierait pas, comme tous les Français qui ont des frais, ses dépenses ?
Alors, d'abord, soyons précis. La déontologue m'a rendu son rapport lundi dernier. Elle vient le présenter devant le bureau de l'Assemblée nationale, avec son analyse et ses propositions, le 30 janvier prochain.
C'est-à-dire
cette semaine.
Cette semaine.
100% des députés seront contrôlés sur leurs frais de mandat par les soins de la déontologue, dont nous avons d'ailleurs renforcé les moyens, en disant qu'une personne à temps plein lui serait déléguée. D'ailleurs, j'observe qu'au même moment où on dit que l'Assemblée nationale coûterait trop cher, on dit qu'il faut créer des postes quand même pour que le député soit contrôlé. Vous voyez,
100% comme quoi, 2022.
Oui, mais bien sûr, il y a ce qui est bien, ce qui est moins bien, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit dans son rapport ? Elle dit que 1500 saisines ont eu lieu. Ça veut dire qu'elle a été interrogée par 80% des députés qui demandait si telle ou telle chose ne posait pas un problème, si on ne risquait pas de ceci ou de cela. Donc ce qu'elle appelle elle-même la culture de la déontologie, je rappelle que cette personne est une professeure de droit totalement indépendante.
Et elle vous demande plus de moyens.
Elle dit elle-même que cette culture
c'est un
déontologique
progresse. La pression des Français.
Oui, Pas du tout.
Bah, ça n'existait pas avant, on ne contrôlait pas.
Non, je vous signale que ça, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron.
Parce que les Français.
Que c'est la première loi que nous avons votée, loi pour la confiance dans la vie publique.
Mais parce que.
Et que c'est mis en œuvre. Donc, comment ça? C'est le candidat Emmanuel Macron qui l'a proposé.
Avant,
c'était le seul candidat à le proposer.
Il n'y
en avait pas un autre.
Richard Ferrand, il vous demande
ça aussi qu'il a été élu.
Sur 600 euros, par exemple.
Alors, sur cette histoire de 600 euros. Alors, de quoi s'agit-il? Au fond, tel que vous le présentez. Vous présentez ça comme une facilité de caisse qui permettrait de ne pas justifier l'usage qui serait fait.
C'est à nouveau Mathieu Orphelin,
je ne sais
pas si c'est aussi une mesure orpheline, allez-vous le répéter, mais qui le suggère de supprimer cette enveloppe.
Très bien. La vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas une enveloppe, d'abord. Ce n'est pas une parce que enveloppe, vous savez,
c'est toujours sous
la mot générique, bien sûr, je ne parlais pas de
liquide. Sous la table, enfin non, pas une enveloppe. Il est simplement dit qu'il y a un montant qui peut souffrir de ne pas être justifié. Mais la réalité, c'est que, évidemment, vous ne retrouverez pas ça dans les comptes des députés. C'est si jamais on perd un justificatif quand on va acheter, telle ou telle chose pour telle ou telle manifestation. Ouais. Donc, ce n'est pas une facilité de caisse, c'est une...
Des frais de taxi, des sandwichs, nous dit-on, qui ne sont pas à justifier.
Voilà, c'est tout.
Donc,
mais rendez-vous dans un an, et quand Madame la déontologue aura... passer au crible, que dis-je au crible, à la paille de fer, l'ensemble des notes de frais, eh bien, vous serez en situation de dire, finalement, ce n'est donc pas une facilité de caisse.
Lui
et je suis sûr que vous aurez à cœur de le dire.
Mais on le fera. Lui donnerez-vous plus de moyens à la déontologue
pas, je n'oublierai pas.
Mais vous pouvez, tout est enregistré. Vous lui donnerez plus de moyens à la déontologue ou pas? Oui ou non, Richard Ferrand, elle le réclame. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens de travailler.
Non. Elle ne dit pas ça.
Elle l'a dit plus.
Elle a fait une note en octobre 2017 à mon prédécesseur. Voilà ce qui s'est passé. Depuis, donc vous voyez, elle ne le réclame pas maintenant. Faut être précis. Ensuite, donc, des moyens complémentaires lui ont été attribués. Elle vient devant le bureau nous expliquer comment elle souhaite procéder. Et ensuite, nous discuterons avec elle si ces moyens doivent être encore augmentés.
Guillaume Roquette.
Je reviens au...
Mais je trouve que vous êtes moins sourcilleux sur la dépense publique lorsqu'il s'agit de donner des moyens pour contrôler les députés que lorsqu'il s'agit
mais les Français le sont
de donner
tout autant,
des moyens
Richard Ferrand.
Pour l'action
même des
publique
députés
à d'autres
de votre
égards.
Majorité s'interrogent, donc c'est légitime que nous le fassions.
Vous avez toute légitimité à poser des questions et moi à donner mes réponses.
Parfait. Guillaume Roquette.
On revient aux propositions du grand débat. Parmi elles revient régulièrement une demande d'abrogation de la limitation de vitesse à 80 km/h. C'est une mesure soutenue par le Premier ministre. Le Président de la République a l'air beaucoup moins chaud. Et vous?
Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont reprocher au Premier ministre de vouloir sauver des vies. Je pense que quand même, il faut prendre la mesure. Quand le Premier ministre a pris cette décision, c'est dans le but de sauver des vies. À côté de cela, moi je considère que, si je prends dans ma circonscription, quand vous allez de Landévennec à Crozon, 80, c'est intenable. En revanche, quand vous allez entre Châteauneuf-du-Fou et Spézet, 70, c'est déjà beaucoup trop. Moyennant quoi, il me semble qu'il faut garder cette règle-là, mais qu'on pourrait utilement donner aux présidents de conseils départementaux qui ont en charge les routes départementales et aux préfets une autorité conjointe pour déroger à cette règle lorsque soit elle n'est pas applicable, elle n'est pas tenable, soit lorsqu'elle doit être modifiée.
Donc les départements de département demandent depuis le début. Pourquoi est-ce qu'on a mis un an avant de les écouter?
Écoutez, vous demanderez ça à d'autres que moi.
À qui? Au Premier ministre?
Non mais aujourd'hui,
est-ce que c'est pas le symbole quand même d'une déconnexion, c'est ce que disent les Français, c'est ce que disent les élus, entre le pouvoir parisien et les régions?
Écoutez,
écoutez pas. Ce qu'ils disent à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, sur ce thème en particulier.
Vous me demandez ce que j'en pense, je vous réponds.
Donc vous êtes sur la même ligne que Gérard Collomb qui dit exactement la même chose que vous?
Ce n'est pas faux.
C'est enregistré. D'autres revendications des Gilets jaunes, Christophe Jacubizine.
C'est pas une mauvaise chose que d'être d'accord avec Gérard Collomb.
Mais personne n'a dit
le contraire,
Richard Ferrand. Christophe Jacubizine.
Alors je vous pose une question, mais je connais déjà la réponse, c'est non.
Alors bon.
Est-ce qu'on a le droit
de parler? Alors ne posez pas, ça ira plus vite.
Les Français veulent parler de l'ISF, est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas? De retour éventuel de l'ISF.
Évidemment qu'on a le droit d'en parler, mais enfin, le Président de la République a eu l'occasion de le dire, pas de tabou, on parle de tout. Simplement... Ce dont il faut parler, et moi évidemment que je suis pour qu'on parle de l'ISF, mais qu'on en parle dans toute sa complexité. L'ISF qui consiste à dire il faut faire payer les riches, si je fais court, c'est une idée plutôt plaisante, évidemment.
Elle vous plaît cette
idée? Sauf que pourquoi cette mesure a été prise de suppression de la part de l'ISF qui est réinjectée dans l'économie? Je vous rappelle que l'impôt sur la fortune immobilière demeure. C'est simplement les autres avoirs qui ne sont plus comptabilisés dans l'assiette du dit impôt. L'objectif, c'est de dire, c'est parce qu'il faut rendre la France plus attractive. Parce qu'on a constaté que depuis des décennies qu'il y avait cette mesure, ça ne rendait pas on ne vivait pas mieux parce qu'il y avait cet impôt. La question, c'était de dire, c'est un frein psychologique à un certain nombre d'investisseurs, notamment étrangers.
Donc on
par conséquent, faisons-le. Donc ensuite, et je me souviens, ça avait fait tout un bazar, Benjamin Griveaux lui-même avait dit, après l'adoption de ce texte, nous prenons 2 ans pour évaluer si, oui ou non, c'est utile à notre économie. Mmh. Donc, les 2 ans arrivent, l'évaluation va être faite, et si la démonstration est faite parce que les investissements étrangers auraient repris...
Pourquoi ne pas anticiper cette remise à plat, enfin en tous les cas, cette inspection du
dispositif ? Parce que pour vérifier les effets d'une mesure, il faut savoir prendre le temps. Il ne faut pas toujours être dans la réaction. Et je vous renvoie à un excellent article de M. Roquette récemment, qui indiquait justement que, aussi vrai qu'un certain nombre de fortunes s'accéléraient, on constatait aussi que dans le monde, la pauvreté reculait.
C'est l'édito de cette semaine du Figaro Magazine.
Moyennant quoi, et ça n'est une illustration, les choses sont complexes et on ne joue pas à pile ou face le fait de supprimer une disposition et de la remettre. Les Français ont aussi besoin d'un certain nombre d'une certaine stabilité et n'attend pas du législateur qu'il ait une sorte de danse de Saint-Guy qui ferait qu'il remettrait le mardi ce qu'il a décidé lundi.
Cette danse de Saint-Guy, est-ce qu'il faut la faire ou pas? Quand on crée une tranche d'impôt supplémentaire, Emmanuel Wargon, par exemple, qui est co-animatrice du Grand Débat National, a jugé cette hypothèse intéressante. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt favorable à une tranche d'impôt supplémentaire pour les revenus très élevés?
N'attendez pas de moi que je vous dise comme ça, je suis favorable à ci ou défavorable à ça.
Vous pouvez.
Ce que je vous dis, moi, c'est qu'il faut faire en sorte que ces grands, réunions et ces débats vivent, qu'on puisse en collecter toutes les idées, toutes les grandes tendances. Et c'est ce que fera justement l'Assemblée nationale. C'est que l'Assemblée nationale, lorsque les conclusions de ces débats seront connues, lorsque chacun dans son territoire aura pu prendre la mesure de ce qui vient, eh bien un grand débat sera organisé sur la base de ces conclusions à l'Assemblée nationale pour voir justement qu'est-ce que c'est qui doit donner lieu à la création d'une loi, qu'est-ce que c'est qui doit amener à rectifier une autre. Bref, qu'il y ait un grand débat où tous les groupes seront conviés sur l'ensemble des sujets à l'Assemblée nationale.
Pas de référendum. Est-ce que vous êtes, vous, favorable, ou vous dites, vous défendez aussi, bien sûr, l'Assemblée nationale dans son rôle de législateur, mais vous dites qu'il peut y avoir une place pour le référendum sur des questions institutionnelles ou très précises sur le plan de l'économie, de la fiscalité.
Mais il ne faut pas créer de la concurrence démocratique stérile. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, d'un côté, il y aura la démocratie dite représentative, de l'autre, participative, ou que sais-je.
Direct.
D'abord, dans notre Constitution, depuis la réforme de 2008, existe le référendum d'initiative partagée qu'avait proposé le président Nicolas Sarkozy.
Il est presque impossible à mettre en œuvre.
Alors, vous avez raison. C'est peut-être de ce côté-là, dans le cadre du projet de réforme constitutionnelle dont les travaux vont reprendre, qu'il faut regarder quelle place pourrait être mise pour cet instrument. Mais vous voyez, c'est infiniment complexe.
Pas forcément un référendum, alors.
Pas forcément, mais pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas me demander au début du grand débat de vous expliquer la fin du match. Oui. Que diriez-vous sinon? Vous diriez, ça y est, c'est préempté, c'est clos, c'est cacheté.
C'est ce que fait par exemple le Premier ministre. Quand on lui dit, est-ce que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne?
Il dit que ça le hérisse.
Ça me hérisse.
Oui. Et vous?
Moi je dis que c'est un système dont il faut tout de même se méfier pour pas que ce soit simplement quelque chose qui fonctionne selon les humeurs du temps, qui soit encadré, dont le champ soit défini. Mais tout ça, ça demande juste un peu de gamberge. Et c'est pourquoi, sur ces sujets aussi, je souhaite que les constitutionnalistes de notre époque, les gens qui sont indépendants, qui ont une certaine conception des choses, puissent être auditionnés, puissent être entendus. Bref, que l'on réfléchisse en profondeur là-dessus, en vous disant une chose. Je ne suis pas certain non plus que, pour qu'un référendum porte ses fruits, il faut encore que les gens aillent voter. Alors là, on nous dit, oui, ils ne vont pas voter parce que c'est les politiques qui sont finalement un peu attractifs. Mais celles et ceux qui seraient indifférents à telle ou telle question, ils pourraient aussi ne pas les voter. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'ensuite, on mettra en œuvre les dispositions impératives qui n'auraient été finalement votées que par une minorité. Vous voyez bien que tout cela est infiniment compliqué. Donc,
est-ce que vous
discuter de tout, oui. Approfondir tout, oui. Travailler, oui. Dire sur un coin de table, voilà comment on fait, non. Ah,
très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Pierre Raffarin, à votre place la semaine dernière, suggérer de diminuer le mandat des députés de 5 à 4 ans pour le déconnecter du pouvoir exécutif et qu'ils retrouvent une autonomie supplémentaire. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas, Richard Ferrand?
Moi, je ne vais pas me lancer dans le concours Lépine... de telle ou telle modification. On pourrait aussi dire, revenons au septennat.
Oui.
On pourrait aussi dire ça. Enfin, écoutez, véritablement, ça aussi, si l'ancien Premier ministre souhaite le verser valablement au débat sur la base d'un nombre d'arguments, etc., moi, je suis prêt à le regarder. Il faut être, je crois, par principe d'abord, et pas simplement parce qu'il y a eu des manifs, il faut être ouvert, pour réfléchir. Entendez. Faut analyser, faut proposer.
Christophe Jacubizi.
Il y a apparemment, Richard Ferrand, un débat au sein du gouvernement et de la majorité sur qu'est-ce qu'on fait après le grand débat. Est-ce qu'on fait une politique plus sociale ou est-ce qu'on continue et on va encore plus vite qu'avant? Le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, a dit lors d'un séminaire gouvernemental le 9 janvier, il faut peut-être arrêter les bêtises. Par exemple, la réforme de la fonction publique, c'est peut-être pas le moment.
Richard Ferrand.
Vous avez raison de citer le plus illustre des Bretons. Jean-Yves Le Drian. Ce qui est vrai, c'est que il nous faut, sans doute, c'est une des leçons que moi je tire de ce que nous avons vécu et vivons encore, il faut sans doute passer plus de temps pour concerter, pour expliquer, et donc faire les choses, finalement, à un rythme...
Plus lentement.
Qui permette, plus lentement, je ne sais pas, mais qui permette une meilleure compréhension, une meilleure contradiction... une meilleure digestion aussi, et surtout, une meilleure mise en œuvre. Parce que, voyez-vous, d'un côté, et moi je le comprends très bien, il y avait une volonté, nous avons une volonté d'aller vite, parce qu'il fallait faire des choses vite, notre pays était et est en urgence économique et sociale, donc il ne s'agit pas de lambiner, mais de l'autre côté, si beaucoup de choses se font simultanément ou autre, on n'a sans doute pas assez de temps pour faire partager les préoccupations. Alors, c'est une dialectique un peu subtile.
Laurent Berger vous réclame une inflexion sociale ce matin dans les pages du journal du dimanche sur votre politique de réforme, Richard Ferrand. Vous, l'ancien socialiste, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je ne suis pas ancien.
Vous l'êtes toujours.
Je suis toujours, figurez-vous, animé par les idées qui ont toujours fondé mon engagement politique.
Alors justement...
Et voyez-vous, oui, mais voyez-vous ce que je crois aussi. Ce que je crois, c'est que lorsque l'on fait... ce que Jean-Michel Blanquer va mettre au débat à l'Assemblée nationale, parce que c'est pas parce qu'il y a le grand débat que nous sommes en congé. Hein. Nous allons voter la loi, enfin voter, nous allons débattre de la loi sur l'école qui permet justement que l'obligation de scolarité passe de 6 ans à 3 ans. Ce qui va éviter que plus de 25 000 enfants qui aujourd'hui ne sont pas scolarisés, finalement, ne partent pas dans la vie avec un handicap.
Donc
la lutte contre les inégalités, moi je la conçois comme étant à la racine et pas seulement... dans une logique
Il vous demande d'aller plus loin et plus vite.
Plus loin et plus vite, et c'est quoi alors, en vrai, concrètement? Quand on met 15 milliards sur la formation pour que les personnes qui aujourd'hui ne retrouvent pas d'emploi, alors que les entreprises cherchent des salariés,
ça me paraît une bonne chose. Il vous demande un moratoire sur la fermeture des services publics, par exemple.
Alors sur ces services publics, moi je pense que nous avons une administration de circulaire, c'est-à-dire administration centrale, qui... comporte beaucoup de personnel qu'on retrouve moins en nombre sur le terrain. Je suis pour une vaste déconcentration des administrations publiques pour que aussi le corps préfectoral qui porte l'action publique dans nos territoires soit mieux armé. Et c'est un corps remarquable d'ailleurs, mais qui mérite d'être mieux armé. Parce que si d'un côté, il y a moins de fonctionnaires sur le terrain, mais qu'il y a plus de monde dans les usines à circulaire, vous comprenez bien que la vie ne va pas se simplifier. Et vous voyez par exemple, il y a... des structures qu'il faut réinterroger aussi, qui ont créé cette distance entre la décision et l'action dans le domaine sanitaire et social, par exemple. Les ARS qui sont aujourd'hui au niveau régional et qui vont décider pour les
agences régionales de santé
qui est à l'autre bout.
Oui.
Tout ça, il faut réinterroger l'organisation de l'État. Voilà un beau chantier.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Richard Ferrand. Alors
bonjour,
on
madame.
Commence avec la polémique de la semaine, c'était concernant Danny Boone. Alors selon le site d'enquête Mediapart, le réalisateur aurait fait 11 investissements dans des paradis fiscaux, comme les Bahamas ou les îles Caïmans. Danny Boone, lui, assure avoir toujours payé ses impôts. « Je paye et je paierai toujours, dit-il, tout l'impôt là où il m'est réclamé. » Et sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont partagé une séquence vidéo, une séquence qui date de 2018, dans laquelle lui, Danny Boone, se dit fier de payer justement ses impôts en France. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a aussi énormément d'internautes qui le soutiennent et le défendent. Ce n'est pas de l'évasion fiscale pour Manon. Il fait ce qu'il veut de ses revenus, nous dit Huguette. Et Bernard, lui, il est écœuré qu'on s'en prenne aux gens qui réussissent et donc à Danny Boone. Et vous, Richard Ferrand, est-ce que vous trouvez qu'on doit cesser ces pratiques d'optimisation fiscale ou au contraire, est-ce que vous dites Danny Boone, bah, il fait ce qu'il veut de son argent?
Richard Ferrand.
D'abord, je vais vous dire que vous êtes journaliste et pas agent du fisc, et que moi je suis député et pas magistrat. Comme ça, on va remettre l'église au milieu du village, pour commencer. Ensuite, ce que je crois, c'est qu'un des grands combats que nous devrons mener lors des élections européennes, c'est de recréer de l'harmonie fiscale à l'échelle de notre continent. Quel est le bon niveau de fiscalisation qui évite qu'un tel ou tel qui réussit aille quelque part, ici ou là, parce qu'au fond, dans le pays où il se serait enrichi, il jugerait être trop taxé.
Donc il n'est pas en train
d'appeler. Quoi, il faut créer une corrélation entre l'exigence fiscale, les fonds européens auxquels nous cotisons tous, qui sont reversés dans tel ou tel pays, et aussi une convergence fiscale, sociale. Et ça, c'est par exemple l'objet du traité d'Aix-la-Chapelle qu'ont signé en début de semaine Emmanuel le président Macron de la République et Angela Merkel. Donc vous voyez, la réponse là aussi, c'est pas de dire je soutiens, je suis contre, d'abord parce que quelle imprudence que de s'exprimer sur des dossiers qu'on ne connaît pas. J'ai moi-même accrochisé tout à l'heure.
Quelque chose qui est
et par conséquent, je ne serai pas de ceux qui hurlent avec les loups.
C'est le cas Carlos Ghosn. Il se pourrait qu'il touche jusqu'à 25 millions d'euros de parachute. Est-ce que ça vous choque ou pas?
Moi, je suis pour le respect des règles.
Quelles qu'elles soient, en la matière.
Écoutez, si c'est en droit civil, les conventions légalement formées servent de loi, tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. C'est ce que dit le Code civil. Alors maintenant, M. Ghosn a démissionné, j'ai bien suivi l'actualité, il a démissionné, cette histoire d'indemnité, il faut regarder si c'est conforme à notre droit ou autre, et appliquer le droit.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors ça concerne une députée de votre majorité, Agnès Thil, qui a tenu des propos qui ont choqué les internautes. Elle est opposée à l'extension de la PMA pour toutes, la procréation médicament assistée, et elle multiplie les polémiques. Dernière polémique en date, hier, elle a demandé sur Twitter à Agnès Buzyn d'appliquer le principe de précaution pour la PMA pour toutes. Je cite « Tant que l'on n'est pas sûr que naître sans père est mieux pour l'enfant ». Donc elle a reçu le soutien de Gilles Legendre qui lui affirme qu'elle a toujours sa place dans le groupe. Mais au contraire, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, lui demande de cesser ses propos polémiques. Il devait y avoir une réunion de La République En Marche pour étudier son exclusion ou pas. Ça a été finalement reporté. Est-ce que oui ou non, elle doit être exclue de La République En Marche?
Richard Ferrand.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne suis plus président du groupe La République En Marche.
Vous êtes président de l'Assemblée nationale.
Et vous avez été un marcheur.
Ça ne m'incombe pas, ça ne m'incombe pas de régenter la vie des groupes.
Alors est-ce que vous êtes choqué par ces propos ?
Mais je ne vais pas dégager en touche. Je vais vous répondre, je voulais juste vous rappeler ça. Seulement, ce que je vais vous dire, c'est que c'est très simple, cette histoire de PMA. C'est un engagement du président de la République. C'est un engagement de notre majorité. J'ai reçu l'autre jour le rapport Touraine-Breton qui conclut à la faisabilité de la mise en œuvre de cette disposition. Moi, il en quoi il est vraisemblable de penser que cette disposition sera adoptée. Et quant à ces gazouillis, c'est toujours ça, je considère que vraiment, parfois, le silence serait infiniment plus éloquent.
Merci beaucoup, Richard Ferrand. C'était votre grand jury. Très belle semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine.